Kennst du schon das Land von der Sonne?
Connais-tu déjà le pays plein de rayons de soleil? Où la bénédiction et ta paix coulent. Et la force pour croire se déverse dans ton cœur. Et la puissance du Saint-Esprit. Viens, oh viens, à celui qui baptise de feu, à la liberté et au rachat par le sang. Jésus veut te baptiser du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit. Donne-toi entièrement à lui. Il te désire. La puissance de la résurrection est pour toi et pour moi. Tel que le Seigneur l'a promis. Viens, oh viens à celui qui baptise du feu, à la liberté, au rachat par le sang. Jésus veut te baptiser d'esprit et de feu, de la puissance du Saint-Esprit. Regarde, il te fait des signes et il t'appelle. Veux-tu marcher à la main de Jésus? De te remplir son cœur désire te remplir de son esprit. Viens, viens à celui qui baptise de feu, à la liberté et au rachat par le sang. Jésus veut te baptiser du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit. Oh, mon roi, écoute, et je veux venir être entièrement semblable à toi, transformé à ton image et à ta nature, et débordé de la puissance de ton esprit. Alors, baptise-moi, Seigneur, de la puissance de l'amour et du feu de l'esprit. Et du courage, de la foi. Jésus, baptise-nous comme le jour de la Pentecôte, de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Ça, nous le voulons tous, n'est-ce pas? Que le Dieu fidèle puisse accorder sa grâce ce soir déjà et qu'il puisse l'accorder, même si ce n'est pas la Pentecôte, mais il peut le faire en tout temps. Si nous sommes prêts, si nos cœurs sont purifiés de tout, alors il peut le faire. C'est ainsi qu'il a promis et nous le croyons de tout notre cœur. Oui, avons-nous tous nos cœurs purs et nos pensées pures, tout doit être purifié. Alors il peut venir avec son Saint-Esprit et peut nous remplir. Merci que son nom soit loué. Je voudrais lire une parole de Dieu dans Éphésiens. Paul ici dit les paroles suivantes. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 6. Il dit ici: que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux, car autrefois vous étiez ténèbres, Ça aussi, nous pouvons le dire de nous, n'est-ce pas? Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Croyons-nous cela? Oui. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Oui, c'est ce que nous voulons, que cela se passe ainsi avec chacun. Prenez donc garde à la manière avec laquelle vous marchez, afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ça, nous pouvons le dire. C'est vrai aussi pour notre temps, ces paroles sont vraies. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez, ou bien sans compréhension, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous voulons nous lever pour la prière. Dieu fidèle, nous te remercions pour toutes les paroles d'exhortation et d'avertissement que déjà autrefois tu as adressées à ton peuple. Par toi-même et par les apôtres, tu as parlé et d'une manière merveilleuse, tu t'es manifesté et tu as averti de tu as averti ton peuple de tout ce qui ne peut pas se tenir devant toi et de tout ce qui ne vient pas de toi. Fais-nous grâce pendant ces temps. Nous ne sommes pas arrivés dans un temps meilleur, mais le temps, la situation du temps s'est aggravée. Mais tu seras avec les tiens, tu l'as promis. C'est ainsi que nous mettons notre confiance en toi de tout notre cœur encore ce soir, de ce que tu accorderas au-delà de ce que nous pourrions demander. Fortifie mes frères, fortifie tous ceux qui sont venus dans la foi. Et particulièrement le frère Franck, Seigneur, tous nous avons besoin de toi et nous le recevons dans la foi que tu nous l'as déjà accordé dans le Saint-Nom de Jésus. Amen. Nous voulons chanter le chœur numéro 4. Il transforme tout, il transforme tout. Nous nous asseyons, nous demandons au frère Franck de venir servir avec la parole. Loué et remercié soit le Seigneur, notre Dieu, pour toutes ses grâces et sa miséricorde, et pour le grand privilège que nous avons encore aujourd'hui d'être ici rassemblés et écouter la parole de Dieu, dans la foi, l'écouter, la recevoir avec ce désir que tout ce que la parole de Dieu nous dit et tout ce qui a été promis en elle réellement s'accomplisse à nous tous. Nous saluons très cordialement et souhaitons à tous fraternellement la bienvenue. Et nous avons aussi des salutations du frère John de Bucarest. Nous avons des salutations du frère Étienne Genton. Nous avons des salutations du frère Lackner. Nous avons des salutations du monde entier. Nous avons des salutations du frère Wallström, des salutations du frère Graf, des salutations du frère Motika de Johannesburg, des salutations de Kapstadt du frère Daniel, des salutations du frère Manfred de Santiago, des salutations de partout. Nous sommes reconnaissants aussi des salutations du frère, de frère Rigobert du Bénin, des salutations de Kinshasa, oui, et d'autres pays. Et nous, de la même manière, nous souhaitons à tous la bienvenue, à tous ceux qui sont ici aujourd'hui, et particulièrement à ceux qui sont ici aujourd'hui pour la première fois. Nous avons notre bien-aimé frère Boyor du Ghana. Et nous voulons lui demander qu'il puisse se lever. Où est-ce qu'il est? Voilà le frère Boyor du Ghana. Ça, c'est mon ami, le papa de notre frère Paul Boyor, qui avait son mariage hier. Et c'est ainsi que l'occasion a été donnée que notre frère, le papa, nous a aussi visités. Ensuite, nous avons le frère Hilton, ici de Kapstadt. Où est le frère Hilton? Oui, pourrais-tu, s'il te plaît, te lever? Ça, c'est notre frère Hilton de Cape Town. Ensuite, nous avons notre frère Israël, ici, du Canada. Le frère Israël du Canada. Que Dieu te bénisse parmi nous. Nous avons des frères ici de l'Angleterre, de la France, de la Belgique, de l'Autriche, de la Suisse, et aujourd'hui nous avons même de la visite de la Finlande et de la Suède. Que Dieu vous bénisse. Ensuite, nous avons de la visite de la Pologne. Le frère Dujak de la Pologne est ici. Lève-toi, s'il te plaît, pour que tous puissent te voir. Nous souhaitons simplement à tous la bienvenue. Où est le frère? Il n'est pas encore arrivé. Alors sûrement qu'il arrivera avec du retard. Ensuite, nous avons deux frères ici du Maroc qui maintenant, eux, habitent en France. Mais les deux, eux, viennent de l'islam. Et pour cela, nous sommes aussi très reconnaissants de ce que Dieu appelle à sortir de tous les peuples, les langues et de toutes les religions. Car c'est ainsi que c'est écrit que Dieu voulait bénir tous, c'est-à-dire c'était la première promesse que le Seigneur avait donnée à Abraham. En toi seront bénies toutes les nations de la terre. Donc, sentez-vous bien de la Tchèque, de la Slovaquie, comme déjà mentionné, de l'Autriche, de partout. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, qui nous bénisse tous de la plénitude de sa grâce. Cette fois-ci, j'ai en fait un compte rendu à rendre, un exposé, un compte rendu à rendre très important, très puissant du voyage dans les régions de l'Amérique latine. Le frère Léonard, lève-toi s'il te plaît. Ça, c'est le frère Léonard Lifessé de Bruxelles. Ensemble, nous avons entrepris un voyage du Mexique, ensuite Guatemala, El Salvador, et ma dernière station était Lima, au Pérou. Et nous avons vu des choses merveilleuses. J'étais avec le frère Ménade déjà auparavant dans plusieurs pays et villes, mais cette fois-ci à l'intérieur du message. Et toutes les assemblées et tous les frères qui auparavant nous avions jamais rencontré, et c'était simplement une réception comme très rarement on l'expérimente, on le constate, les cœurs étaient ouverts, et c'est ainsi que la parole du Seigneur, réellement, tant qu'on pouvait le constater aussi, en partie à l'endroit même, pouvait produire l'effet pour lequel elle fut envoyée. Nous remercions aussi particulièrement le frère Erwin Pacheco, qui traduit dans la langue espagnole, d'une manière que maintenant, nous avons tout un nombre de villes et de frères que nous avons reçus, ajoutés pour recevoir donc de la nourriture spirituelle. Nous sommes simplement reconnaissants de ce que la parole de Dieu parcourt les pays et que l'humanité est atteinte. Et aussi d'ici, aujourd'hui, nous saluons tous, dans tous les peuples, les langues et les nations. C'était tout un grand nombre qui ont appelé pour nous dire qu'aujourd'hui, ils écouteront en direct avec nous et verront en direct les réunions. Quelques remarques étaient même faites. Ils voudraient avoir une image entière et pas comme ça en diapositif. Des réunions en direct, mais quelque part, nous allons pouvoir le réaliser. Nous avons nos frères qui sont en train de s'occuper de cela, pour que cela soit possible. J'ai quelque chose qui m'est arrivé pendant le dernier voyage, sûrement que je l'ai déjà dit, mais dans ce petit appareil, j'ai toutes les 1159 prédications de frère Branham. Et cette fois-ci, j'avais ce petit appareil avec moi. Et j'ai aussi, pour la première fois, écouté des prédications et des réunions des années, particulièrement des années 1947 et 1948. Seulement une réunion de 1948 m'était connue, mais tous les autres des années 47 et 48 m'étaient aussi nouvelles pour moi. Et je remercie notre frère Hortvart à Zurich qui m'a offert ce grand cadeau. Et cet appareil, on peut le prendre avec soi dans l'avion, on peut écouter, et le casque est très agréable, et c'est ainsi que réellement, je pourrais presque dire, j'ai écouté presque nuit et jour, et j'ai écouté ce que j'avais jamais auparavant écouté. Et j'ai pu voir ce que j'avais jamais vu dans d'une telle mesure, jamais vu auparavant, d'une telle manière. C'est-à-dire que frère Branham, par Dieu, était conduit d'une manière qu'il pouvait prononcer aux malades sa guérison. Et tous, sans exception, au moment même, furent guéris. Ça, il faut l'avoir expérimenté ou bien entendu personnellement, comme dans les années 1946, 47, 48, probablement aussi dans les années 49, dans le ministère de frère Branham, cela se passait. Et comme presque dans chaque prédication, il s'est référé à l'appel qu'il avait reçu particulièrement du 7 mai 1946. Et en relation avec cela, il a mentionné qu'il lui a été dit, tel que à Moïse, deux signes ont été donnés, c'est ainsi que deux signes te seront donnés. Et ce qui m'a impressionné particulièrement, mais vraiment saisi, touché, c'est que frère Branham disait, le même Dieu vivant qui, en tant qu'ange de l'Alliance, était descendu à Moïse et au peuple d'Israël, et avait fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte et accompagné le peuple d'Israël. Le même ange, le même Seigneur, le même Dieu est ici sur la plateforme aujourd'hui. Et cela se passait au moment même, à l'instant même. Vous savez, les religions existent aussi dans le christianisme, il y a assez de religions aussi à l'intérieur du christianisme seulement, mais que Dieu, au moment même, à l'instant même, à l'endroit même, ouvre les yeux des aveugles, fait marcher les paralytiques et confirme sa parole à l'instant même, au moment même. 300 personnes, jusqu'à dans la nuit, frère Branham a prié pour jusqu'à 300 personnes. Et dans une même réunion, cela se passait. J'ai toujours dû dire de nouveau. Mais ça, dans une telle mesure, aussi dans les quatre évangiles, cela n'est pas témoigné jusqu'à que j'ai lu Jean 21 au verset 24 et 25 où il est dit que beaucoup d'autres choses avaient été faites par le Seigneur, mais que si on les écrivait en détail, on ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Alors j'étais de nouveau satisfait que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Et ce qu'il a fait autrefois, il l'a répété dans notre temps. Et cela nous touche. Cela a quelque chose à nous dire. Ce n'était pas l'homme, c'était Dieu le Seigneur, qui, d'une manière si merveilleuse, pouvait l'utiliser. Et qu'est-ce qui était lié à cela? Ce qui était lié à cela est que notre attention soit attirée sur la parole, et c'est-à-dire sur le message de l'heure, sur les promesses pour cette époque. Tous, vous savez que Moïse avait, n'est-ce pas, reçu les signes et la confirmation, pas à cause de lui, de sa personne, mais seulement pour que le peuple puisse croire que Dieu l'a envoyé. Et là aussi, toujours de nouveau, cela a été dit, et subitement, vraiment, comme une révélation descendant du ciel. C'est ainsi qu'on pourrait le dire. Cela s'est passé avec moi. J'ai toujours de nouveau entendu que frère Branham disait, si tu crois que je suis le prophète de Dieu, et aussi si tu crois que je suis de Dieu, que c'est Dieu qui m'a envoyé. Je pensais en moi-même. Homme de Dieu, cela aurait été aussi possible sans que tu poses cette question. Mais comme descendant du ciel, directement par une inspiration, la pensée suivante m'est venue. Imaginez-vous qu'il y aurait eu des personnes dans la lignée de prière qui seraient venues et penser en eux-mêmes, c'est un charlatan. Et ils auraient prié, et ils auraient été guéris, et ils auraient ensuite, ils seraient repartis avec cette pensée, ce charlatan vraiment, il comprend bien les choses. Non, Dieu ne donne pas son honneur à un autre. Les serviteurs de Dieu, des serviteurs de Dieu, ont le droit de poser la question, crois-tu que je suis envoyé de Dieu? Crois-tu que ici, j'agis sous une commission divine, mandatée par Dieu? C'était puissant pour moi, important pour moi. Je le répète, imaginez-vous que des personnes auraient été dans la lignée de prière, seraient venues dans la lignée de prière et auraient pensé en eux-mêmes, auraient pensé l'un ou l'autre, auraient pensé et auraient été dans le doute. Est-ce que cela est juste? Est-ce que cela n'est pas juste? Est-ce que cet homme est de Dieu? Est-ce que cet homme n'est pas de Dieu? Alors, sûrement que rien ne se serait passé en fait. Alors, il serait reparti. Mais il serait reparti sans rien que se passe. Mais pour que cela puisse se passer et que Dieu puisse confirmer sa parole. Alors, cela s'est passé ainsi. Et je suis simplement touché d'une manière nouvelle, saisi de ce que Dieu, par sa grâce, a fait. Je voudrais pour cela simplement aller dans Exode, le chapitre 4, le premier verset, lire le premier verset. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Et lié avec cela, le Seigneur ne t'a même pas envoyé. Ils ne me croiront pas. Et ensuite, Dieu a donné la réponse, oui, si ils te croiront, je te donnerai deux signes. Si ils ne croient pas au premier signe, ils croiront au deuxième. Le verset 8. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, il s'agit de la conviction et ne se laisse pas convaincre par le deuxième signe. Il s'agissait de ça. Et alors, Frère Branham a toujours de nouveau cité Hébreux 11, verset 1. La foi, est-ce que vous voulez qu'on le lise exactement tel que c'est écrit? Dans Hébreux, le chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est la foi. Abraham n'avait encore rien vu, mais il a cru. Et ensuite, il a vu. Le verset 12, dans Exode chapitre 4. Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Et ensuite, la relation, la liaison, nous l'avons ici. L'objectif du mandat, de l'envoi, au verset 22 et 23. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Moïse avait le ainsi dit le Seigneur. De la même manière, Frère Branham l'avait aussi. Il avait le ainsi dit le Seigneur. Le même Dieu. Et tel qu'autrefois, l'envoi pour et adressé à l'Église d'Israël avait été adressé à l'Église d'Israël. C'est ainsi que cet l'envoi aujourd'hui est adressé à l'Église du Dieu vivant dans toutes les nations et voulu pour elles. En relation avec cela, il est écrit ici, dans la deuxième partie du verset 22, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Toutes ces paroles-là nous sont connues, mais allons avec cela à l'Exode, dans Exode, le chapitre 14, ici il est écrit, à partir du verset 18, Exode, chapitre 14, verset 18, et les Égyptiens, verset 19, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp. On peut continuer à lire le verset 20. C'était le verset 19. Repartons à Exode chapitre 4. Ici, l'ange est Dieu lui-même. Dans Exode, chapitre 4. Et ici, nous lisons dans Exode, ça c'est déjà le chapitre 3. Exode, chapitre 3, à partir du verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » Écoutez bien, s'il vous plaît. L'Éternel vit. L'ange de l'Éternel lui était apparu en tant que flamme de feu. Et quand l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse, bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés amis, Dieu se révèle, et même s'il le fait en forme d'un ange, il reste l'ange de l'Alliance, ou bien alors l'ange, ou bien alors Dieu le Seigneur lui-même. » Repartons ici, en tant qu'ange de l'Éternel. Allons dans Exode, le chapitre 14. Et ici, seulement les derniers versets. Les derniers versets. Exode 14, verset 29. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer. Et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. C'était un miracle. Moïse avait levé la verge et c'est Dieu qui a divisé la mer. Moïse a fait que lever la verge et comme une muraille à droite et à gauche, la mer a formé une muraille et le peuple de Dieu passait à sec, traversa à sec. Regardez ce qui est écrit ici. Verset 31. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel. Écoutez bien. Et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Le monde entier peut dire, je crois en Dieu. Le monde entier. Mais est-ce qu'il croit vraiment Dieu? Celui qui croit vraiment Dieu, il croit aux promesses que Dieu a données. Et il a part à leur accomplissement. Tout le reste, ce n'est qu'une foi que des hommes se sont fabriqués. Qu'est-ce que le Seigneur disait dans l'évangile de Jean au chapitre 14? Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est de ça qu'il s'agit toujours. C'est de croire Dieu de la manière avec laquelle il se manifeste et se révèle. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Le peuple d'Israël a cru Dieu. Mais ici, Dieu s'était manifesté dans la chair. Maintenant, ça accomplissait ce que Dieu avait annoncé à l'avance. Maintenant, l'histoire du salut était en train de, avait pris forme. Dieu était à l'œuvre, en action. Et il est écrit, il vint chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Et pourquoi ils ne l'ont pas reçu? Parce qu'ils n'ont pas cru le précurseur qui a préparé le chemin du Seigneur. Bien, frères et sœurs, nous pourrions lire tout un nombre de versets bibliques, par exemple, connus de nous tous, la parole de Deux Chroniques, de Deux Chroniques, Seulement le verset 20, 2 Chroniques, le verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis, confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez, vous serez vainqueurs. C'est ainsi que Dieu n'a pas utilisé le vent et l'air et la lune pour prêcher sa parole. Mais depuis le commencement, Dieu a utilisé des prophètes. Et tel que c'est écrit dans Hébreux 1, à partir du verset 1, que Dieu s'est adressé au Père par les prophètes de plusieurs manières et à plusieurs reprises, mais qu'à la fin des jours, il nous a parlé dans son Fils. Et malgré tout, il est écrit, voici, je vous envoie le prophète Élie, avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Et malgré tout, il est écrit, Dieu a établi dans l'Église des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des docteurs et des évangélistes. Et malgré tout, il est écrit dans Matthieu 23, verset 34, voici, je vous envoie des prophètes et des docteurs, desquels vous allez en tuer plusieurs. On n'a jamais le droit d'utiliser une parole contre une autre. On doit toujours voir la relation d'une parole avec une autre, la liaison, et reconnaître pourquoi est-ce que le Seigneur, en cet endroit, a dit la chose suivante, et dans un autre endroit, a dit la chose suivante, à qui est-ce qu'il a parlé? Il parlait là. Comment est-ce que l'édifice de ce qui l'a dit est la même chose, est aussi concernant tous ceux qui connaissent le message de l'heure, qui croient que frère Branham est l'homme, était l'homme envoyé de Dieu, et ils prennent des citations de ses prédications, et il sort de leur contexte d'une manière si grave, et il les utilise pour leur propre perdition, il les interprète pour leur propre perdition. C'est le grand problème. Celui qui, une fois, regarde dans nos emails, la plupart posent des questions sur Apocalypse 10, sur 1 Thessaloniciens 4, concernant le retour du Seigneur. Bien mes frères et sœurs, on ne doit pas être prédicateur. On n'a pas besoin d'être quelque chose pour comprendre que aussi 1 Thessaloniciens 4 est assez clair. Ce n'est même pas permis, ce n'est même pas possible de lire quelque chose d'autre que ce qui est écrit dans ce chapitre de 1 Thessaloniciens 4. Et la requête principale, et ça je le dis concernant 1 Thessaloniciens 4, je le dis à cause de ceux qui ont des problèmes dans le monde entier, et ici dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, n'est-ce pas, le problème principal, donc, la requête principale est adressée à ceux qui sont endormis trois fois. Il est écrit l'un après l'autre. Il est parlé de ceux qui sont décédés, de ceux qui sont endormis. Et ça, on doit le respecter. On doit savoir quel est le sujet de ce chapitre. Qu'est-ce que l'apôtre ici traite et qu'est-ce qu'il a dit sur ce sujet et de quoi il s'agit dans ce que Paul expose ici. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont endormis. Il y avait des problèmes. Ils avaient des problèmes avec ceux qui se sont endormis, ceux qui sont décédés. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce qu'ils sont? Dans quel état ils sont? Et la réponse a été, ne vous inquiétez pas. En ce qui concerne ceux qui sont endormis, Dieu ne nous a pas laissés dans l'ignorance au sujet de ces choses. afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Pourquoi affliger? Nous avons cette espérance vivante. Au verset 14, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus. C'est le sujet, s'il vous plaît. Que Dieu ramènera ceux qui se sont endormis par Jésus, avec lui, et avec lui ceux qui se sont endormis. Donc, il les ramènera. Pourquoi est-ce que nous devons nous inquiéter? Dieu a pris toute la responsabilité. Il ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Il a toute la responsabilité sur ceux qui sont vivants et sur la mort. Maintenant, à partir du verset 15, voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, cela me plaît toujours. Quand quelque chose est dit et que c'est d'après la parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont endormis, décédés. C'est ici le sujet, s'il vous plaît. Trois fois, il est parlé de ceux qui sont endormis. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que les frères se font des soucis et ont d'une telle manière si extrême, incompris frère Branham, mal compris frère Branham. Et de ces 1159 prédications, frère Branham a dit qu'une seule fois que 1.5.4, le cri de 1.5.4, le commandement est le message. Et de cette citation unique, ils ont dit que depuis l'ouverture des sceaux, le temps de la grâce est passé et que le Seigneur est en train déjà de descendre. Parfois, on doit vraiment se retenir pour ne pas poser la question, pour ne pas devoir poser la question, mais pourquoi et comment est-ce que ces personnes-là réellement lisent la Bible? Ils lisent la Bible avec, peut-être, avec leurs pensées, ou bien, donc, sans ce que Frère Branham a dit dans ce cas, sans se donner, sans que la parole leur produise la clarté sur le sujet. Maintenant au verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné. Est-ce que ce signal donné, ils disent que ça devrait être le message? Le message de la fin des temps est à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra. Bon, bien, si le cri du réveil, si le signal donné était le message et qu'il retentit déjà, et qu'il a retenti et qu'il retentit encore, mais s'il vous plaît, la voix de l'archange n'a sûrement pas encore été entendue. Et les trompettes de Dieu non plus. Et la trompette de Dieu non plus. Et ceux qui sont morts en Christ n'ont pas non plus ressuscité. Ils ne sont pas encore là. Alors nous sommes satisfaits. Et nous revenons à la parole de Dieu. À la simplicité à l'égard de Christ. Comme c'est écrit dans 2 Corinthiens 11. Dieu est dans la simplicité. Il est écrit ici encore que le Seigneur lui-même descendra. Il est écrit ici noir sur blanc et que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Auparavant, trois fois, les endormis, les décédés étaient le sujet. Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas affligés concernant les décédés, ceux qui sont endormis, ceux qui sont décédés et quand le Seigneur reviendra. Alors, ceux qui se sont endormis en Christ vont d'abord, premièrement, ressusciter. Et c'est ainsi que, ensuite, nous les vivants, nous qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés frères dans le monde entier, acceptez cela. La parole de Dieu est toujours liée à une réalité, à des réalités. Le Seigneur va, comme il est écrit ici, ramener par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. D'abord, premièrement, les morts en Christ vont ressusciter. Vous savez que dans le présent, tous les justes achevés n'ont pas encore le corps de résurrection. Ils ont un corps spirituel exactement semblable au nôtre donc dans la même apparence, mais dans ce corps spirituel dans lequel ils sont, dans le paradis, ils ne peuvent pas manger et boire. Ils existent simplement comme tous les anges et les séraphins. Mais au moment du retour du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est ainsi que la résurrection aura lieu. Et c'est à ce moment-là que nous recevrons un corps de résurrection et que dans ce corps de résurrection, nous serons transformés à l'image de Jésus-Christ et que nous pourrons de nouveau manger et boire et avec le Seigneur, ensemble, avec Abraham, Isaac et Jacob, nous pourrons donc dans la gloire fêter le souper du Seigneur. Donc, Dieu a rendu les choses si simples et merveilleuses. Et nous sommes très reconnaissants et nous lui disons merci de ce qu'il veille sur sa parole et pour l'achever et achever toutes choses de manière merveilleuse. Je pense encore à une autre parole qui aussi tout de nouveau est posée comme question dans 1 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 7, tous nous savons que ici, il est parlé de ce que des lettres ont été répondues. Paul a répondu à des lettres. 1 Corinthiens 7, au verset 1, pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit. Ensuite, il donne la réponse jusqu'à qu'il arrive au verset 8. Et ici, je vous demande, s'il vous plaît, d'être attentif à la chose suivante. Quand est-ce que Paul dit ça, c'est ce que je dis. Et quand est-ce qu'il dit, c'est pas moi qui le dis, mais le Seigneur. Là aussi, on doit faire attention en lisant la parole de Dieu. 1 Corinthiens 7, verset 8. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Ici, Paul dit simplement, ça c'est moi qui le dis. Bon, c'est bien. Ils font bon de rester comme moi. Il n'était pas marié. C'était son droit. Mais si nous continuons à lire dans le même chapitre, alors il dit ici au verset 26, 1 Corinthiens 7, au verset 26. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Donc, c'était après les années 70, après Christ, alors que les Romains avaient déjà détruit Jérusalem et que vraiment une grande catastrophe dans tout le pays existait. Et il a donné ce conseil-là à cause de la situation difficile. Si tous avaient vécu dans l'abondance, il aurait dit que celui qui veut se marier, qu'il le fasse le plus rapidement possible. Mais revenons ici au centre, au noyau de la question, c'est-à-dire ici au verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, ensuite la petite correction suit ou bien eux. Non pas moi, mais le Seigneur. Maintenant, l'apôtre vient dans le ainsi dit le Seigneur. Il dit ce qui suit, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est ainsi dit le Seigneur. C'est ce que le Seigneur dit. Que la femme ne se sépare point de son mari. Et maintenant arrive le verset que tous jusqu'aujourd'hui ont mal compris, qui se sont occupés avec ce sujet. Verset 11. Si elle est séparée, si elle a divorcé, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Et vous savez où se trouve le problème ici? C'est que depuis 1979, on a interprété ça, ils ont interprété ça et ils ont simplement dit que qu'une femme croyante peut se séparer de son mari, peut divorcer. Je me suis donné l'effort, j'ai lu dans les dictionnaires, j'ai regardé dans Brockhaus, j'ai regardé dans les dictionnaires, j'ai lu aussi dans des bibles d'études, j'ai lu, et il est vraiment écrit, si elle est déjà divorcée, si elle s'est déjà divorcée, ou bien alors si elle s'est déjà séparée, qu'elle demeure sans se marier. Ici, ce n'est pas un conseil pour le futur, ce n'est pas une permission pour le futur, mais au moment, si dans le cas où la séparation a déjà eu lieu, au moment où cette lettre-là est venue dans l'église, si la séparation a déjà eu lieu, alors reste seul, demeure sans te marier, ou alors réconcilie-toi, réconciliez-vous avec vos maris. Il n'a jamais été dit à une femme, si l'idée t'arrive de quitter ton mari, alors tu peux te référer à 1 Corinthiens 7 au verset 11, c'est-à-dire si elle veut se séparer. Et ça, c'est justement le même mensonge satanique tel qu'il a été donné à Ève et dit à Ève dans les années d'Éden. Bien, frères et sœurs, le temps est arrivé où nous devons exactement lire la parole de Dieu et comprendre ce qui est vraiment dit et ce que cela veut dire. Et avec de tels versets, on doit aussi aller à tous les autres versets qui traitent le même sujet. Alors que les frères qui ont des difficultés et des problèmes avec cela dans le monde entier, qu'ils puissent savoir que ici, il a été seulement décrit ce qui s'était déjà passé et que ici, il ne s'agit pas de donner le droit à une sœur de dire à son mari, écoute, bye bye, je vais mon propre chemin, car c'est ainsi que c'est écrit, si elle se sépare. Il n'est pas écrit cela pour le futur. Il est écrit cela seulement en faisant référence du passé. Et ça, on doit le corriger dans le monde entier pour que les hommes puissent savoir ce qui est vraiment écrit. Et vous pouvez aussi lire tous les autres versets. Une femme est liée par la loi de Dieu à son mari tant qu'il vit. On doit prendre tous les autres versets. Si on prend qu'un seul verset, on a des problèmes. Et particulièrement quand l'adversaire nous l'interprète encore en plus. Alors, revenons à la parole et revenons à tous les versets bibliques qui traitent le même sujet pour que tous nous soyons enseignés par Dieu et arrivons à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. La même chose est avec Apocalypse 10. Ce n'est même pas nécessaire que quelque chose soit interprété ou bien alors placé comme ça dans l'espace. Non, cela va se passer dans la chronologie telle que c'est écrit ici. Que le Seigneur, en tant qu'ange de l'Alliance, descendra. Et si quelqu'un, quelque part sur terre, vous dit que les 7 tonnerres ont été révélés, un tel homme, vous pouvez le renvoyer. Oui. C'est seulement au moment. Et je demande vraiment, bien mes frères et sœurs, dans le monde entier, que la crainte de Dieu nous soit accordée devant Dieu et la parole de Dieu, que vraiment on puisse respecter la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Apocalypse 10 a seulement besoin d'être lu avec tous nos sens sans orgueil, C'est seulement comme ça qu'on comprendra que c'est seulement quand le Seigneur, en tant qu'ange de l'Alliance, posera son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, écrira d'une voix forte comme rugit un lion. C'est à ce moment-là que les 7 tonnerres feront entendre leur voix, pas d'avant. À quoi est-ce que devraient servir tous ces bruits, toutes ces fantaisies et ces interprétations, et toujours en faisant référence aux prophètes, bien mes frères et sœurs, le temps est là. Je vais toujours et toujours de nouveau le dire. Aussi le plus grand prophète est seulement qu'un écriteau, qu'une pancarte. C'est seulement le Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité. Le plus grand prophète peut prêcher les plus grandes révélations. Si le même Saint-Esprit, si le même Esprit de Dieu ne se repose pas sur nous aussi pour nous accorder la même révélation, alors quoi? C'est vraiment nécessaire que nous ayons une relation, une liaison et communion personnelle avec Dieu. Les prophètes l'avaient, frère Branham l'avait, Paul l'avait, et nous avons besoin de la communion personnelle avec Dieu. Les expériences qui nous sont décrites dans les Saintes Écritures, et ensuite aussi la foi que avec le message, l'appel à sortir, la conduite dans les promesses, comme autrefois avec Moïse, aussi maintenant. Avec le mandat était directement lié, laisse sortir mon peuple. La sortie du peuple. C'est ainsi que nous lisons que la colonne de feu allait devant eux, et quand les adversaires étaient derrière eux, la colonne de feu est allée derrière eux, entre le camp d'Israël et l'adversaire, pour les garder, pour les protéger. Et Israël avait de la lumière et les adversaires étaient dans l'obscurité. Avec le message divin avec lequel frère Branham a été envoyé, de nouveau, l'exode, la sortie a lieu de tout esclavage. Plus d'esclavage possible, plus de joug qui aussi, par des enseignements, voudraient nous affliger et dominer sur nous. Mais être enseigné par Dieu, recevoir la grâce de Dieu, laisser sortir mon peuple, laisse sortir mon fils, laisse sortir mon église, laissez-les sortir. Et ça, cela a lieu maintenant, que le Seigneur réellement appelle l'église à sortir. Mais le point le plus important est le suivant, bien-aimés frères et sœurs, que réellement nous soyons liés avec Dieu. Et ça, je ne le dis pas pour critiquer, je le dis avec une douleur. Beaucoup, particulièrement les frères du monde anglais, et particulièrement du continent de l'Amérique du Nord, sont, n'est-ce pas, liés avec frère Branham. Ils disent le prophète, le messager, le messager, le messager. Et ils connaissent pas le Dieu du prophète, le Dieu du prophète. Et ce qui a été dit, ils l'ont mal compris et ils l'appellent encore le message de l'heure. Le message de l'heure est dans ce livre. Ici, rien ne peut être changé, rien ne peut être ajouté, rien ne peut être ôté. Ici, tout le conseil du salut de notre Dieu est contenu. Le frère Kupfer vient aujourd'hui à moi dans le bureau et disait, frère Frank, j'ai lu le psaume 33. Et alors, je lui disais, frère Kupfer, regarde, je me suis noté cela, psaume 33, je suis en train de le lire. Nous nous sommes réjouis, nous sommes réjouis ensemble. Ici, au psaume 33, du verset, il est dit ici, versets 10 et 11. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Et nous pouvons le dire, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est notre Dieu. Dans la deuxième partie du verset 12, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Pour son héritage. Le peuple qui peut dire, le Seigneur est mon Dieu. Que vraiment, réellement, nous appartenons au Seigneur et que nous ayons fait avec le Seigneur nos expériences personnelles. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, Paul écrit quelque chose de très merveilleux. Et en tout, les saintes écritures sont la sainte et précieuse parole de Dieu, mais il y a des passages qui, d'une manière particulière, relèvent certains points et insistent là-dessus. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, à partir du verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que, parce que nous nous laissons conduire par cette conviction, que si un seul est mort, pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Dites-moi, est-ce que cela est notre décision aujourd'hui? Que tous nous puissions vivre pour lui, pour notre Seigneur, qui est mort pour nous, et que de nous il puisse être dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimés frères et sœurs, je le répète encore une fois, particulièrement tous nos frères dans le ministère et dans le monde entier, celui qui est mort avec Christ n'a même plus de propre vouloir et de propre savoir. Il ne veut rien, il ne veut plus rien, il ne sert plus rien. Il est inspiré seulement de Dieu, il reçoit la parole révélée, et c'est ainsi que par le Saint-Esprit, il est conduit dans toute la vérité. Celui qui pense encore savoir quelque chose, je ne sais pas comment est-ce que l'état d'une telle personne est. Qu'il puisse l'entendre. Cela a eu lieu en 1976, alors que ici nous avions cette réunion internationale de frères, et un frère de New York et vint à moi et disait: Frère Franck, je voudrais prêcher les sept tonnerres. Je lui ai dit: bon, cela peut avoir lieu, mais avant la prédication, viens avec moi dans cette pièce de prière à côté. Nous l'avons fait, nous sommes allés dans la pièce de prière à côté. Et je lui ai demandé: bien-aimé frère, dis-moi, quels sont les sept tonnerres? Il a dit: ça, c'est très simple, c'est 2 Pierre chapitre 1, les sept vertus que Pierre là-bas expose, ce sont les sept tonnerres. Je lui ai dit: écoute, arrête. Tu n'as pas besoin de dire cela, qui que ce soit. Les sept tonnerres sont les sept vertus, s'il te plaît. Ça n'a rien à voir avec les sept tonnerres. Il a dû lui-même un peu sourire de ce qu'il m'a raconté une telle chose. J'aurais bien voulu les avoir tous devant moi pour les ramener au bon sens et à la simplicité à l'égard de Christ. Pas comme ça à vivre d'orgueil et d'imagination, mais de croire la parole de Dieu et par le Saint-Esprit être conduit dans toutes les vérités de la parole de Dieu. Ici, dans 2 Corinthiens, chapitre 6, si nous continuons à partir du verset 16, non pardon, verset 5, chapitre 5, 2 Corinthiens 5, verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Non. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Nous aussi, bien-aimés frères et sœurs, nous n'avons plus le droit de connaître qui que ce soit selon la chair. Simplement de croire que Dieu a régénéré toutes choses. Et là où ce n'est pas encore ainsi, cela aura encore lieu, car notre Seigneur a dit: voici, je rends toutes choses nouvelles. Ce qui est important, c'est que nous puissions pardonner là où il y a quelque chose à pardonner, pour que nous puissions aussi être pardonnés. très très important. Celui qui pense qu'il y a quelqu'un qui lui aurait fait quelque chose, qui a besoin de pardon, va et dis-le à ton frère ou alors à ta sœur. Et je suis convaincu de Dieu que si vraiment il y a une faute qui existe et qu'une transgression a eu lieu et que quelqu'un a offensé quelqu'un d'autre, vient lui a fait du mal, je suis convaincu que tous ceux qui sommes ici aujourd'hui, nous tous qui sommes ici aujourd'hui, nous pouvons dire de tout notre cœur, pardonne-moi, je n'ai pas voulu faire ça. Celui qui a reçu le pardon, il transmet le même pardon qu'il a reçu. Mais ici, au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et maintenant arrive, verset 18. Et tout cela vient de Dieu. En allemand, tout cela est l'œuvre de Dieu. Qui alors peut, s'il vous plaît, se glorifier? Si tout cela est l'œuvre de Dieu, vient de Dieu, ce qui se passe en nous, avec nous et par nous, tout cela vient de Dieu, est l'œuvre de Dieu. Donc, laissons Dieu agir en nous par le sang de l'agneau, par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, encore aujourd'hui, par l'Esprit de Dieu. Pas seulement considérer la parole, mais l'expérimenter. Et bien, mes frères et sœurs, nous devons, sous l'écoute de la prédication, dire amen à tout ce que nous entendons et dire, bien aimé Seigneur, accorde-moi, produis ces choses en moi, pour que cela en moi et se passe tel que c'est écrit ici, tel que nous l'avons lu. Ensuite, Paul écrit les paroles merveilleuses après qu'il dise que tout cela vient de Dieu, est l'œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec Christ, car Dieu était en Christ et réconciliant le monde avec lui-même. Oh, pardon, le verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il est encore écrit ici au verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Pas va réconcilier, mais a réconcilié le monde avec lui-même. C'est accompli. Cela a eu lieu en imputant point aux hommes leurs offenses. Imputant point aux hommes leurs offenses. Heureux l'homme dont les péchés sont pardonnés et dont sont couverts et les offenses, les transgressions, dont ne remue plus le passé, mais remercie Dieu pour la réconciliation, pour le pardon, pour la grâce et pour le salut. Encore plus, il est écrit encore ici, encore plus. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. D'envoyé pour Christ. Moïse était un envoyé. Les prophètes étaient des envoyés. Nous faisons les fonctions d'envoyé. Jean-Baptiste était un homme envoyé de Dieu. Paul a reçu lors de son appel. Il lui a été dit lors de son appel. Là où je t'enverrai, c'est-à-dire dans le lointain aux nations. À Frère Branham. Frère Branham était aussi un homme envoyé de Dieu. Nous n'avons pas encore compté combien de fois notre Seigneur, en tant que fils de l'homme, dans son ministère, a dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Celui qui m'a envoyé est avec moi. En tant qu'envoyé, il était prophète, car Moïse avait dit, un prophète comme moi, Dieu vous suscitera un prophète comme moi du milieu de vos frères. Aussi, en ce qui concerne cela, on doit être très attentif dans quel contexte cette parole bien précise-là trouve sa place. Quand est-ce que notre Seigneur est agneau de Dieu, est avocat, intercesseur, médiateur, rois, prophètes, sacrificateurs, tous ces différents domaines de devoir sont décrits ici dans ce livre et représentés devant les yeux de tous. Alors on doit justement voir où appartient quoi. Mais ce qui est le plus important encore, c'est que nous trouvions notre place dans le plan du salut de Dieu et que nous puissions avoir part à ce que Dieu fait dans le présent et que nous puissions expérimenter, accepter la réconciliation, le pardon, la grâce et le salut, que nous l'ayons personnellement expérimenté et que nous puissions dire, je suis réconcilié avec Dieu et bien sûr avec tous ceux qui ont accepté la réconciliation et qui acceptent la réconciliation, que nous puissions nous retrouver dans les Saintes Écritures, dans de telles paroles, nous retrouver au verset 20 encore, nous faisons donc les fonctions d'envoyer pour Christ. Nous faisons les fonctions d'envoyer pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, Dieu exhorte par nous. Ensuite, nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Le verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ça, c'est une parole merveilleuse et puissante et importante, pas seulement être justifié, mais devenir en lui justice de Dieu par la grâce de Dieu. En lui, Colossiens 1, en regard au souper que nous avons aujourd'hui, que nous allons avoir aujourd'hui, Colossiens 1, ici nous avons les paroles merveilleuses à partir du verset 14. Dans plusieurs Bibles, manque au verset 14 ce que je vais lire aussi, en qui nous avons la rédemption. Il est vraiment écrit dans le texte original par son sang. Cela manque malheureusement ici en cet endroit ou bien alors en ce verset ici dans plusieurs traductions. En qui nous avons la rédemption, en qui nous avons la rédemption par son sang, c'est-à-dire le pardon des péchés. Ensuite, il est exposé et écrit ensuite au verset 19, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui, même tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. C'est une œuvre accomplie de Dieu. Et à ce verset, à sa place aussi, Éphésiens, le deuxième chapitre, à partir du verset 3. Mais c'est le verset 4. Éphésiens 2, verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Nous étions morts dans la transgression et le péché, mais c'est en Jésus-Christ. Nous l'avons maintenant expérimenté. Cela a eu lieu pour nous alors que notre Seigneur sur la croix à Golgotha donna sa vie, donna son sang. C'est là que Dieu était en Christ et a réconcilié le monde. T'as réconcilié, m'a réconcilié, a réconcilié le monde avec lui-même. à pardonner nos péchés, nos fautes et nos transgressions et à placer tout sous l'agneau de Dieu pour que nous ayons la paix. Oui, la justice, que nous puissions devenir la justice de Dieu. Et il nous a rendus vivants avec lui, quand il écrit ici, que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Au verset 6, il nous a réconciliés ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Aux yeux de Dieu, l'Église est déjà achevée devant le trône de la grâce, car c'est vraiment une œuvre accomplie pour toute l'éternité. Ici, il y a beaucoup encore de versets qui ont leur place, c'est-à-dire concernant l'élection, la prédestination, la grâce que Dieu nous a accordée. Seulement encore deux paroles. L'une de l'épître de Pierre, ici dans 1 Pierre, l'homme de Dieu a parlé de la rédemption. Et je vous demande à tous, ceux qui sont ici aujourd'hui et qui n'ont pas encore fini avec eux, avec leur passé, avec leurs problèmes, avec ce qui les afflige, tous ceux qui n'ont pas encore fini, s'il vous plaît, acceptez cela en tant qu'un don de Dieu pour chacun de nous, pour chacun de nous. Cette parole est valable. Que nous, qu'en Christ, nous avons été réconciliés avec Dieu par la croix. Le sang a coulé pour notre pardon. 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux du Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Maintenant arrive, de la même manière comme nous, avant même la fondation du monde, prédestiné, c'est ainsi que c'est écrit ici, concernant l'agneau de Dieu. Prédestiné, donc, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. À cause de vous. À cause de vous. À cause de vous. Cela a eu lieu pour toi et pour moi, à cause de moi et à cause de toi. Cela a eu lieu pour toi et pour moi. Et cela a eu lieu avec toi et avec moi. Nous sommes crucifiés avec Christ, morts avec lui, et par le baptême, ensevelis avec lui, et ressuscités avec lui, par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, pour marcher en nouveauté de vie. Ici, au prochain verset, il est écrit, « Car c'est par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. » On pourrait lire le verset 23, on pourrait lire encore, lire et relire encore. Repartons à Apocalypse encore, allons dans Apocalypse, le chapitre 5. Apocalypse, le chapitre 5, versets 9 et 10. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Alléluia. Et tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs, un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Bien, mes frères et sœurs, c'est une œuvre accomplie de la rédemption. Et pour le résumer, la parole de Dieu nous a été révélée pour que nous ne puissions plus interpréter, mais accepter tout tel que c'est écrit. La relation de verset biblique en verset biblique, la rétablir est vraiment comme un enseignement, l'accepter de la part de Dieu, comme un enseignement divin, car il est dit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Ils auront le même enseignement, et tel que c'est écrit, l'enseignement sortira de la montagne de Sion, et la parole du Seigneur de Jérusalem, elle est sortie de Jérusalem. Le jour de la Pentecôte a eu lieu à Jérusalem. Le déversement du Saint-Esprit, le fondement de l'Église du Nouveau Testament, tous les enseignements, tout nous a été de la part de Dieu accordé par sa grâce. S'il vous plaît, nous ne voulons pas seulement être des écouteurs, des gens qui écoutent et des spectateurs, mais aujourd'hui, demander à Dieu que d'une manière surnaturelle, quelque chose se passe en nous. Que aujourd'hui, Dieu puisse laisser manifester sa présence. Et que vraiment, nous puissions dans la foi avoir reçu la parole et les choses que Dieu a promises aussi personnellement les expérimenter. Le Seigneur est fidèle et il nous aidera, il nous secourra. Il nous a aidés jusqu'à aujourd'hui. Seulement encore une question. Combien sont reconnaissants que Dieu nous a révélé sa parole par sa grâce? Amen. Amen. Que vraiment, de la part de Dieu lui-même, nous sommes enseignés et instruits et introduits dans sa parole. Et je le dis sincèrement, je suis reconnaissant à Dieu de ce que je n'ai rien apporté de moi-même. Tout ce que nous avons en cet endroit, nous l'avons reçu de Dieu. Nous faisons que le transmettre et nous donnons tout l'honneur seulement à Dieu, le Seigneur, et nous lui sommes reconnaissants pour l'envoi de tous les serviteurs, de tous les prophètes, de tous les apôtres, reconnaissants pour l'Ancien et le Nouveau Testament, reconnaissants pour l'envoi de Frère Branham. Tous, nous serions restés dans l'obscurité, dans les ténèbres. Aucun de nous aurait su ce que Dieu, dans sa parole, pour ce temps, a promis. Et aucun de nous aurait pu avoir part à ce que Dieu fait dans le présent si le Seigneur n'avait pas envoyé son serviteur, le prophète, avec le message. Mais avec son retour à la maison, le message n'est pas non plus reparti à la maison, mais il nous a été transmis, il nous est resté, il est demeuré avec nous, il est resté avec nous, et nous pouvons le porter, ce même message, le porter dans le monde entier. Et nous remercions Dieu de ce que la pancarte est venue pour nous montrer le chemin, et que nous avons maintenant un chemin frayé sur lequel nous pouvons marcher. Bien, mes frères et sœurs, nous allons tout de suite avoir le souper, la Sainte Cène. Vous connaissez les paroles d'introduction de Matthieu 26, vous connaissez les paroles d'introduction de Marc, l'évangile de Marc. Vous connaissez les paroles d'introduction de Paul de 1 Corinthiens, le chapitre 10 de 1 Corinthiens, le chapitre 11. Tous ces versets, vous les connaissez tous. Marc 14 est l'un des versets les plus clairs en ce qui concerne le souper du Seigneur dans Marc 14, versets 22 et 23. Marc 14, à partir du verset 22. Et pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: prenez ceci, est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit: ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Tous nous savons que la coupe n'a pas été versée, mais n'a pas été répandue, mais c'est le sang de l'alliance qui a été répandu. Pas la coupe, mais le sang de l'alliance. Ce qui était dans la coupe, le vin a été bu en symbole, en mémoire, pour l'œuvre accomplie de la rédemption sur la croix à Golgotha. Mais nous tous, qui par le sang de l'agneau, ont été rachetés et ont expérimenté la grâce et le pardon, nous prenons part au souper en tant que un souper en mémoire. Car c'est ainsi que c'est écrit, en mémoire, en moi. Faites-le tant que vous le faites. Le texte est écrit ici, dans Matthieu 26, vous le faites en mémoire, en moi, Matthieu 26, verset 26, c'est aussi dans 1 Corinthiens, chapitre 11. 1 Corinthiens, le chapitre 11. Ici, nous avons les paroles de Paul qui a donc donné un résumé de ce que notre Seigneur déjà avait dit. Je lis seulement 1 Corinthiens, le chapitre 11, à partir de verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi, en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ça, nous voulons le faire ce soir. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Peut-être que nous nous levons pour un moment et nous prions ensemble, et ensuite nous allons demander aux deux sœurs de nous chanter un cantique qui s'ajuste à cette occasion. D'abord, nous voulons remercier ensemble. Père Céleste, nous te remercions de tout notre cœur pour l'œuvre accomplie de la rédemption sur la croix à Golgotha. Bien-aimé Seigneur, je te demande pardon. Pardon de tout, pour toutes les fautes, les péchés et toutes les transgressions. Pardonne-nous tous, car si toi tu imputais les offenses et les transgressions, qui se tiendrait devant toi? Qui? Nous pensons à la parole, celui qui te pardonne tous tes péchés et qui guérit toutes tes maladies, qui sauve ta vie de la force et te couronne de grâce et de miséricorde. Bien-aimé Seigneur, dans l'Ancien Testament, c'était une prophétie, mais dans le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement. Nous te remercions de tout notre cœur et de toute notre âme pour cela. Bien-aimé Seigneur, que tous, aussi nos frères, notre frère d'Hambourg et notre sœur d'Hambourg, qui aujourd'hui sont ici pour la première fois, que ton esprit puisse venir sur eux, sur nous tous, sur nous tous, qu'ils puissent expérimenter personnellement le pardon et la grâce et aussi le salut et la guérison. Tu puisses accepter tout ce que tu as accompli pour eux et l'expérimenter. Bien-aimé Seigneur, que tu puisses avoir ton chemin avec nous tous. Et nous te remercions pour la puissance de ton sang, de ta parole et de ton esprit. Et te donnons à toi seul l'honneur, dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire et exalté soit notre Dieu. Notre Dieu. Si vos péchés sont comme le croix moisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Écoutez la voix qui invite et convertissez-vous. Tournez-vous à Dieu. Car il est plein de miséricorde. Sa fidélité est grande. Écoutez la voix qui invite et tournez-vous à Dieu, convertissez-vous. Il pardonne les offenses, les transgressions et ne pense plus au péché. Il pardonne. Les transgressions et ne pense plus au péché. Venez à lui, vous fatigués, car auprès de lui, il y a du repos. Il pardonne les transgressions. Il pardonne les transgressions. Et ne pense plus au péché.